Je vous propose de lire aujourd'hui un des textes proposés à la méditation des églises en ce dimanche, le texte de l'Évangile selon Marc, au chapitre 12, les versets 41 à 44. Marc 12, nous sommes tout près de la Passion, Jésus est entré à Jérusalem. Et à Jérusalem, il va souvent, il va dans le temple. S'étant assis en face du trésor, Jésus regardait comment la foule y lançait de la monnaie de bronze. Nombre de riches lançaient beaucoup. Vint aussi une pauvre veuve qui mit 2 leptes valant 1 quadrant. Alors il appela ses disciples et leur dit : Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a lancé plus que tous ceux qui ont lancé quelque chose dans le trésor. Car tous ont lancé de leur abondance, mais elle, elle a lancé de son manque. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Dans ce tout petit récit de 4 versets et 5 phrases, un même verbe revient 7 fois. Un verbe que j'ai traduit par « lancer ». Le verbe grec signifie aussi « jeter ». Les versions des Bibles, celles de la NBS, ne donnent jamais à lire ainsi ce texte avec 7 fois le même verbe, que ce soit « lancer » ou « jeter ». Elles proposent ces traductions 1 ou 2 verbes. Et très souvent, en grande majorité, le verbe « mettre », qui est un verbe qui sert à tout, qui n'engage pas à grand-chose, tellement il est employé à la place d'autres verbes plus précis. D'ailleurs, vous verrez bien tout à l'heure au moment de l'offrande, si vous voulez mettre, poser, déposer, glisser, donner, jeter, lancer votre offrande dans l'aumônière. Mais l'usage intensif de ce lancer ou jeter donne une surprenante résonance à ce texte. Et surtout en français. Parce qu'en français, le verbe « jeter » parle souvent de poubelle, où nous jetons ce que nous ne voulons pas garder, ce dont nous voulons nous débarrasser. Et si le « jeter » est un lancer, comme lorsqu'on lance un ballon à quelqu'un, eh bien le verbe implique alors, le verbe « lancer » implique une énergie, une détermination et un objectif. Il s'agit donc dans ce récit d'un lancer d'argent dans le trésor du temple de Jérusalem. De l'argent parce qu'il s'agit de permettre l'entretien et le fonctionnement de ce vaste et somptueux bâtiment, un des plus beaux de l'Antiquité, paraît-il. Car le temple est indispensable à l'exercice de la foi dans le judaïsme ancien. Il est le lieu des sacrifices. Les sacrifices rythment aussi bien les grandes fêtes du calendrier juif que les grandes étapes de la vie des croyants. C'est dans ce temple que Jésus a renversé les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs d'animaux en leur reprochant sans ménagement d'avoir fait de cette maison de prière une caverne de voleurs. Et c'est là, dans ce temple, que s'est engagée une série de controverses entre Jésus et les pharisiens, les prêtres, les scribes, les anciens, jusqu'à ce moment où Jésus voit la pauvre veuve lançant 2 petites pièces dans le trésor du temple. Et de ce qu'il observe, Jésus tire un enseignement pour ses disciples. Mais il semble que la conclusion soit absente, la conclusion de cet enseignement. En effet, Jésus ne dit pas Le royaume de Dieu est comme le geste de la veuve. Jésus ne dit pas non plus « malheur aux riches qui ne donnent que de leur superflu ». Jésus ne dit pas « faites comme la veuve et ne faites pas comme les riches ». Non, il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de jugement sur qui que ce soit. Alors qu'est-ce donc que ce récit va lancer dans l'esprit, l'intelligence ou la foi du lecteur? Certains pourraient trouver admirable le geste de la veuve qui ne garde rien pour elle. Cette pauvre veuve qui n'aura plus rien pour vivre après avoir lancé ses deux petites pièces. Quelle foi ! Quelle doit être sa foi pour qu'elle se dépouille ainsi de tout ? Qui n'aurait pas gardé ses deux dernières petites pièces ? Ou une seule, simplement pour manger ? Mais cependant, gardons-nous de faire de la veuve un modèle de piété ou de désintéressement. Jésus ne le fait pas. Il n'y a pas d'exaltation de la pauvreté dans ce récit, et si les évangiles mettent en garde contre le pouvoir idolâtre et corrupteur de l'argent, ils n'exhortent pas à se débarrasser de tous les biens. Certains peuvent s'y sentir appelés, comme une mise en pratique de leur foi, comme par exemple François d'Assise. Mais cela n'est en rien une loi, ni une obligation, ni une condition. Le salut ne passe pas par nos comportements, mais par la grâce seule, et c'est bien ce que Jésus annonce, proclame et vit. Alors quel sens est-il possible de comprendre au geste de la pauvre veuve ? Ces deux petites pièces ne pèsent pas lourd dans le budget général du temple de Jérusalem. Au regard de la grandeur, de la splendeur de l'édifice, de son fonctionnement, elle ne les aurait pas mis, elle n'aurait pas manqué ces deux petites pièces. Et puis on pourrait même dire que ce don de ces deux sous, ce don à la fois dérisoire et extrême, ce don ne sert doublement à rien parce que ce temple, si magnifique, si imposant, si bien décoré, va être totalement détruit. Tout disparaîtra. Jésus dit à un disciple admiratif, il n'en restera pas pierre sur pierre. Prophétie dans la droite ligne de celle des prophètes de la Bible hébraïque, devant l'orgueil, l'oppression, les injustices, dont aucun sacrifice ne peut effacer la malfaisance. C'est donc toute sa vie que la veuve lance dans le trésor du temple, dans le tronc des offrandes. Il ne lui reste plus rien après cela. C'est toute sa vie qu'elle lance dans ce qui signifie tellement pour elle, dans tout ce qui signifie tout pour elle, tout ce qui signifie tout pour elle, et un tout qui est plus important que sa vie même. C'est toute sa vie, sans restriction et sans mesure, qu'elle lance dans sa relation à Dieu, parce que sa foi relève de ce qui est vital comme l'air, peut-être plus que l'air, plus que l'eau, plus que le pain. Et pour la veuve, comme pour les fils et les filles d'Israël, la relation à Dieu dépend du temple de Jérusalem où sont effectués les sacrifices indispensables. Alors elle lance ces deux pièces. C'est peut-être un geste sans espoir, un geste de fin de vie, la fin de sa vie, mais dans la foi et dans la fidélité, un geste de remise, d'abandon. Et si c'est la fin de sa vie, elle sait au nom de quoi, au nom de qui. Ou c'est peut-être un geste de protestation que personne ne verra à part Jésus. Une protestation de vie, une vie minuscule, mais une vie quand même, capable d'une décision de foi et de fidélité, capable de se donner sans rien garder. Et cette offrande minime, qui compte pour rien, et qui pourtant est requise par l'économie de la religion, cette offrande minime représente paradoxalement tout le poids qui pèse sur les croyants. Et c'est bien cela le problème que Jésus voit et qu'il signale à ses disciples. La religion du temple est un système qui aggrave la pauvreté des pauvres en captant, par l'organisation des sacrifices, la possibilité de se tenir devant Dieu. Le système du temple met en péril les personnes pauvres en les obligeant à passer par des dépenses incontournables car il faut des sacrifices. Même au temple de Jérusalem, la vie devant Dieu passe par l'obligation de payer. Et la veuve y perd sa vie par fidélité. Et c'est comme une protestation de vie qui lui fait perdre sa vie. Et dans la foule, invisible parmi ceux qui lancent beaucoup plus de pièces qu'elle, la veuve achève publiquement et dans l'indifférence sa trajectoire de pauvreté, de solitude, de vie et de foi. C'est ce que Jésus fait voir à ses disciples, qu'il a déjà mis en garde précédemment contre les scribes qui dévorent les maisons des veuves. Jésus leur montre le scandale d'un système religieux, économique et politique qui exploite même les plus démunis, qui prend tout à ceux qui n'ont rien. Et ce tout, c'est bien plus que de l'argent. C'est de la reconnaissance. C'est une place, une voix entendue, des relations, la dignité. Mais qui voit les existences qui chutent, qui chavirent, qui disparaissent hors de vue, hors de connaissance, hors du monde? Qui voit, qui entend ces si menues protestations d'existence perdues dans les foules? Ce que Jésus voit et qu'il montre à ses disciples, c'est le scandale d'une existence sacrifiée. C'est le scandale de l'obligation du sacrifice supérieur à la valeur d'une existence humaine. Un sacrifice, une obligation qui ne se préoccupe pas d'une existence humaine au nom de Dieu. Mais de quel Dieu? C'est d'un autre Dieu dont Jésus témoigne. Il est le Christ du Dieu qui donne sans calcul et sans retour, et un Dieu qui donne pourquoi? Pour la vie des vivants, pour sa création. Dieu qui ne demande rien en échange de ce qu'il donne, parce que ce qui transforme une existence, c'est de recevoir ce qu'il donne de confiance, de souffle, de grâce, de vie vivante. Mais certainement Jésus voit-il encore autre chose en observant la pauvre veuve. Il se voit lui-même. Il se reconnaît dans ce geste à la fois fou et déterminé, humble et délibéré, ce geste souverain d'une vie lancée, jetée, sans retenue, dans la confiance en Dieu, dans la foi et dans le monde, et quitte à en être retranchée. Le geste de la pauvre veuve, c'est un geste prophétique pour Jésus. Un geste qui lui manifeste sa vocation. Et bientôt, c'est lui qui lancera complètement sa vie dans la confiance en Dieu, en la lançant dans le gouffre de la mort. Un dernier geste face à cette mort qui vient, face à ceux qui vont le sacrifier, lui, à leurs intérêts et à leur conception de Dieu et de la religion. Il lancera sa vie démunie de tout ce qui se marchande, démunie de toute assurance, cette vie pauvre de tout. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? La pauvre veuve n'aurait-elle pas pu murmurer ce extrait du psaume 22 en lançant ses deux pièces dans le trésor du temple ? Jésus reconnaît toute la vérité du don d'une vie dans la foi, dans la relation à Dieu. Il voit sa propre existence condensée dans ce geste si rapide et discret de la veuve. Lui qui a été envoyé dans le monde sur une parole, « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Lui qui a donné sa vie, qui l'a lancée dans le terreau de l'humanité afin que les humains cessent de croire que la grâce de Dieu se vend et s'achète, que sa confiance se gagne à coup de sacrifice. lui qui va donner sa vie, qui la donne déjà, pour que les humains croient enfin que la justice, la compassion, l'amour et la bénédiction ne sont pas des conditions, mais des conséquences de la grâce donnée. Et nous, nous vivons du don de cette vie lancée en notre humanité. Et dans cette vie toujours donnée, nous pouvons lancer la nôtre. Et nous vivrons. Et d'autres ainsi pourront vivre de grâce, seuls. Amen.